5. Je crois que jamais je n'avais pédalé aussi vite. En danseuse sur mon vélo, je fonçais dans les rues sans regarder. Une voiture klaxonna, des pneus crissèrent et quelqu'un brailla « Regarde où tu vas, petit con !» Mais j'eus beau foncer, les secours m'avaient devancé. Quand je tournais au coin de Pine et de Sycamore, en dérapage, obligé de poser un pied à terre pour éviter de finir dans le décor, l'ambulance s'éloignait déjà. Gyrophare allumé et sirène hurlante. Je fis le tour de la maison. Avant que je puisse ouvrir la porte de la cuisine, Radar jaillit par la chatière et se jeta sur moi. Je m'agenouillais pour l'empêcher de sauter et de solliciter ses hanches fragiles. Elle gémit, jappa et me lécha le visage. N'essayez même pas de me dire qu'elle ne savait pas qu'un drame venait de se dérouler. On entra dans la maison. Une tasse de café était renversée sur la table de la cuisine et la chaise sur laquelle il s'asseyait toujours. C'est curieux, cette façon qu'ont les gens de choisir une place et de s'y tenir. Avait basculé sur le sol. La cuisinière était restée allumée. La cafetière à l'ancienne était trop chaude pour qu'on puisse la toucher et elle sentait le brûler. Une odeur d'expérience de chimie, pourrait-on dire? J'éteignis la plaque et utilisai une manique pour poser la cafetière sur un brûleur froid. Pendant tout ce temps, Radar ne me quitta pas d'une semelle. Elle appuyait son épaule contre ma jambe et frottait sa tête contre mon genou. Un calendrier traînait sur le sol à l'entrée du salon. Il était facile d'imaginer le déroulement des faits. Monsieur Boditch buvait son café, assis à la table de la cuisine. Il avait laissé la cafetière sur le feu pour boire une deuxième tasse. Soudain, des coups de marteau dans la poitrine. Il renverse sa tasse. Le téléphone est dans le salon. En se levant, il fait basculer sa chaise, il titube et fait tomber le calendrier accroché au mur en voulant se retenir. Le téléphone rétro était posé sur le canapé-lit. Il y avait également un emballage portant l'inscription « Papaverine », un produit qu'on lui avait injecté avant de le transporter, supposais-je. Assis sur les draps froissés, je caressais Radar et la grattais derrière les oreilles, ce qui semblait la calmer à tous les coups. « Ça va aller, Fifi. Tu verras, il va s'en tirer. » Mais au cas où, je jetais un coup d'œil sous le canapé-lit, où, d'après M. Boditch, j'étais censé trouver tout ce dont j'avais besoin. Il y avait là le revolver dans son étui, avec sa ceinture ornée de concho. Il y avait un vieux trousseau de clés et un portefeuille que je n'avais jamais vu, et un vieux magnétophone à cassette que j'avais déjà vu, lui, posé sur une des caisses de bouteilles de lait en plastique entreposées au deuxième étage. En regardant le magnétophone de plus près, je constatais qu'il y avait une cassette radio Shack à l'intérieur. Soit M. Boditch avait écouté quelque chose, soit il avait enregistré quelque chose. Je misais sur la seconde hypothèse. Je glissais le trousseau de clés dans une poche et le portefeuille dans une autre. J'aurais préféré le ranger dans mon sac à dos, mais il était resté au lycée. Le reste, je l'emportais à l'étage pour le déposer dans le coffre. Avant de refermer la lourde porte et de faire la combinaison, je posais un genou à terre et plongeais les mains jusqu'au poignet dans les pépites d'or. Je les laissais couler entre mes doigts en me demandant ce que j'allais en faire si M. Boditch mourait. Radar gémissait et aboyait au pied de l'escalier. Je redescendis, m'assis sur le canapé-lit et appelai mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Il me demanda comment allait M. Boditch. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Je fonce à l'hôpital. J'étais au milieu de ce foutu pont quand mon téléphone sonna. Je me garais sur le parking du Zipmart pour répondre. C'était Melissa Wilcox. Elle pleurait.
Il est mort dans l'ambulance, Charlie. Ils ont essayé de le ranimer, ils ont tout essayé, mais l'infarctus était trop sérieux. Je suis désolée. Terriblement désolée.
Je répondis que j'étais désolée, moi aussi. Je regardais la vitrine du Zipmart. L'enseigne n'avait pas changé. Une assiette débordant de morceaux de poulet frit, le meilleur du pays. Mes larmes vinrent brouiller les mots. Me voyant, Madame Zippy sortit et me lança
« Tout va bien, Charlie ?»«
Non, » répondis-je.
« Pas vraiment. »
Ça ne servait plus à rien d'aller à l'hôpital maintenant. Je traversais le pont en sens inverse et remontais Sycamore Street Hill en poussant mon vélo. J'étais trop vanné pour pédaler, surtout dans la montée raide. Je m'arrêtais devant notre maison, mais elle était vide et elle le resterait jusqu'à ce que mon père rentre du travail. Pendant ce temps, une chienne avait besoin de moi. Une chienne qui m'appartenait maintenant. 6. De retour chez Monsieur Boditch, je passais un long moment à caresser Radar, en pleurant. À cause du choc, évidemment, mais aussi parce que la réalité commençait à s'imposer. Il n'y avait plus que le vide, là où autrefois j'avais eu un ami. Mes caresses apaisèrent la chienne et moi aussi, car je me mis à réfléchir. Je rappelais Mélissa pour savoir si une autopsie allait être pratiquée. « Non, me dit-elle, car il n'était pas mort seul et la cause du décès était évidente. » Le médecin légiste va délivrer l'autorisation d'inhumer, mais il aura besoin d'une pièce d'identité. Est-ce que par hasard, tu aurais son portefeuille ? J'avais un portefeuille. Ce n'était pas celui que M. Boditch glissait dans sa poche de pantalon, qui était marron, alors que celui que j'avais trouvé sous le lit était noir, mais je ne le dis pas à Mélissa. Je répondis par l'affirmative. « Rien ne pressait, » ajouta-t-elle. « Tout le monde le connaissait. » Je commençais à me le demander. Je trouvais le numéro de Léon Braddock sur Internet et l'appelais. La conversation fut brève. Toutes les affaires de M. Boditch étaient en ordre, m'informa-t-il, car il ne s'attendait pas à vivre longtemps.
« Il m'a expliqué qu'il achetait toujours des bananes bien mûres. J'ai trouvé ça adorable. »
« Le cancer, pensais-je. Voilà pourquoi il avait mis de l'ordre dans ses affaires. Il s'attendait à être emporté par cette maladie, pas par une crise cardiaque. Il est venu à votre cabinet ?»«
Oui, un peu plus tôt ce mois-ci. »«
Quand j'étais au lycée, donc. Et il ne m'en avait pas parlé. Il a pris un Uber, je parie. »«
Pardon ?»«
Non, rien. Mélissa Sakine dit que le médecin légiste a besoin d'une pièce d'identité pour le certificat de décès.
Oui, oui, simple formalité. Si vous la portez au bureau d'accueil de l'hôpital, ils feront une photocopie. Un permis de conduire, s'il en avait encore un, même périmé, devrait faire l'affaire. Du moment qu'il y a une photo. Mais rien de presse. Ils n'en ont pas besoin pour remettre le corps à l'entreprise de pompes funèbres. Je suppose que vous ne savez pas quelle...
Crossland, dis-je. C'est eux qui se sont occupés de l'enterrement de ma mère. C'est juste ici, à Sentry.
Parfait, parfait. Je me chargerai des frais. Il avait laissé de l'argent pour parier à ce genre de triste éventualité. Vous me direz ce qui a été convenu ? Peut-être que vos parents pourraient s'en occuper. Ensuite, il faudra que je vous voie, Monsieur Reed.
Moi ? Pourquoi ?
Je vous le dirai quand je vous verrai. Ce sera une conversation très intéressante, je pense.
7. Je rassemblais les croquettes de Radar, sa gamelle et ses médicaments. Pas question de la laisser dans cette maison, où elle attendrait que son maître revienne de l'endroit où il était parti. J'accrochais la laisse à son collier et l'entraînais vers le bas de la colline. Elle avançait lentement, mais d'un pas régulier, et elle gravit les marches de notre perron sans peine. Elle connaissait la maison maintenant, et elle alla directement à sa gamelle d'eau. Après quoi, elle se coucha sur son canapé et s'endormit. Mon père rentra peu après midi. J'ignore ce qu'il vit sur mon visage, mais il lui suffit d'un regard pour me serrer fort contre lui. Je me remis à pleurer. Un véritable déluge cette fois. Il plaqua sa main derrière mon crâne et me berça comme si j'étais toujours un petit garçon, ce qui me fit pleurer de plus belle. Quand les grandes eaux cessèrent enfin, il me demanda si j'avais faim. « Oui, » répondis-je, et il cuisina une demi-douzaine d'œufs brouillés dans lesquels il jeta des poignées d'oignons et de poivrons hachés. Pendant qu'on déjeunait, je lui racontais ce qui s'était passé en omettant délibérément un tas de choses. Le revolver, les bruits dans le cabanon, le seau rempli d'or dans le coffre-fort. Je ne lui montrais pas le trousseau de clés non plus. J'avais l'intention de cracher le morceau très bientôt et sans doute qu'il me passerait un savon pour n'avoir rien dit plus tôt, mais je voulais vraiment garder pour moi tous ces trucs déments tant que je n'aurais pas écouté cette cassette. Je lui montrai le portefeuille. Il contenait des billets de 5 dollars comme je n'en avais jamais vu. Mon père m'expliqua que c'était des « silver certificates », pas extrêmement rares, mais aussi rétro que la télé et la cuisinière Hot Point de M. Bowditch. Il y avait également 3 pièces d'identité. Une carte de sécurité sociale au nom de Howard A. Bowditch, une carte plastifiée certifiant que Howard A. Bowditch était membre de l'American Woodsman's Association, et un permis de conduire. Je regardais avec fascination la photo de la carte de la Woodsman's Association. Monsieur Bowditch semblait avoir 35 ans, 40 au maximum. Il arborait une épaisse chevelure rousse flamboyante coiffée en arrière, formant des ondulations impeccables qui dégageaient un front lisse et un sourire insolent que je ne lui connaissais pas. Je l'avais vu sourire, bien sûr, et même jusqu'aux oreilles une ou deux fois, mais jamais avec une telle insouciance. Vêtu d'une chemise à carreaux en flanelle, il avait tout de l'homme des bois, en effet. « Un simple bûcheron », m'avait-il dit, il n'y avait pas si longtemps. « Les contes de fées en regorgent. »« Ça, c'est très très bon », dit mon père. Je levai les yeux de la carte que je tenais à la main. « Quoi donc ? Ça ?» Il me tendit le permis de conduire qui montrait M. Bowditch à 60 ans environ. Il avait encore beaucoup de cheveux roux, mais plus clairsemés, et il livrait un combat perdu d'avance contre les cheveux blancs. Le permis n'était plus valide depuis 1996, d'après la date imprimée sous son nom, mais on savait à quoi s'en tenir. Papa avait effectué des recherches sur Internet. M. Bowditch possédait une voiture quelque part, mais il n'avait jamais eu de permis de conduire valide dans l'Illinois, contrairement à ce que ce document suggérait. M. Heinrich devait connaître quelqu'un qui fabriquait de faux papiers. « Pourquoi ? » demandai-je. « Pour quelle raison ?»«
Pour un tas de raisons. Mais à mon avis, il savait certainement qu'aucun médecin ne pourrait établir un certificat de décès sans au moins une pièce d'identité. »
Il secoua la tête, non pas avec agacement, mais admiration. « Ce permis, Charlie, c'était une assurance d'essai.
Qu'est-ce qu'on va faire ?»«
On va faire avec. » Bowditch cachait des petits secrets, sans aucun doute, mais je ne pense pas qu'il ait braqué des banques dans l'Arkansas ou provoqué une fusillade dans un bar de Nashville. Il était bon avec toi et avec sa chienne. Pour moi, c'est suffisant. Je pense qu'il mérite d'être enterré avec ses petits secrets. À moins que son avocat soit dans la confidence.
Tu n'es pas de cet avis ?
Si.
Monsieur Bowditch cachait des secrets, en effet, songeais-je. Mais pas des petits, sauf à considérer comme un petit secret le fait de posséder une fortune en or. Et puis, il y avait quelque chose de vivant dans son cabanon, jusqu'à ce qu'il lui tire dessus, du moins. 8. Howard Adrian Bowditch fut inhumé 2 jours plus tard, le jeudi 26 septembre 2013. La cérémonie eut lieu au funérarium Crossland et il fut enterré au cimetière de Sentry's Rest, là où repose ma mère. La révérende Alice Parker dirigea une cérémonie laïque à la demande de mon père. Elle avait officié également lors de l'enterrement de ma mère. Elle fut brève, mais j'eus le temps de réfléchir quand même, alors, mais aussi au cabanon. Monsieur Bowditch avait tué quelque chose derrière cette porte. Et l'excitation l'avait tué. Cela avait pris un certain temps, mais j'en étais convaincu. Au funérarium et au cimetière étaient présents George Reed, Charles Reed, Melissa Wilcox, Madame Alcia Richland, un avocat nommé Léon Braddock et Radar, qui dormit durant tout l'office et se manifesta juste une fois au bord de la tombe, en aboyant au moment où on descendait le cercueil en terre. Cela semble sentimental et invraisemblable. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est arrivé. Mélissa m'étreignit et m'embrassa sur la joue. Elle me dit de l'appeler si j'avais envie de parler, et je promis de le faire. Je regagnai le parking avec papa et l'avocat. Radar marchait à ma hauteur. La Lincoln de Braddock était garée à côté de notre modeste Chevrolet Caprice. Il y avait, non loin de là, un banc à l'ombre d'un chêne dont les feuilles viraient au doré.
« Peut-être que nous pourrions aller nous asseoir là-bas un instant, » suggéra Braddock.
j'ai une chose très importante à vous annoncer. Attendez, dis-je. Continuons à marcher. J'observais Madame Richland, qui s'était retournée pour nous regarder, une main en visière comme à son habitude. Constatant qu'on se dirigeait vers nos voitures, a priori, elle monta dans la sienne et s'en alla. « Maintenant, on peut aller s'asseoir, » dis-je. « J'en déduis que cette dame est du genre curieux, » dit Braddock. « Elle le connaissait ?»« Non, mais M. Bodditch disait que c'était une fouineuse et il avait raison. » Une fois sur le banc, M. Braddock posa sa mallette sur ses genoux et l'ouvrit. « Je vous ai promis que nous aurions une conversation intéressante, et je pense que vous serez d'accord quand vous aurez entendu ce que j'ai à dire. » Il sortit de sa mallette une chemise et de cette chemise une petite liasse de feuilles maintenue par une pince en or. En haut de la première feuille, on pouvait lire « Dernière volonté et testament ». Mon père ne put s'empêcher de rire. « Bon sang, il a légué quelque chose à Charlie ?»«
Vous n'y êtes pas, » le reprit Braddock. « Il a tout légué à Charlie. »
Je dis la première chose qui me passa par la tête et qui n'était pas très polie. « Merde alors !» Braddock sourit et secoua la tête.
« C'est un nullum cacastatum, comme on dit chez les avocats. Je suis très sérieux. Monsieur Bodditch vous a légué la maison et le terrain sur lequel elle est construite. Un sacré terrain, soit dit en passant, dont la valeur atteint au moins les 6 chiffres. Plutôt 7, compte tenu des prix de l'immobilier à Sentry's Rest. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison vous appartient aussi, ainsi qu'une voiture actuellement remisée à Carpentersville. Et sans oublier la chienne, évidemment. »
Il se pencha pour caresser Radar. Celle-ci leva brièvement la tête et la laissa retomber sur sa patte.
« C'est la vérité vraie ?» demanda mon père.
« Les avocats ne mentent jamais, » dit Braddock. Puis il repensa à ce qu'il venait de dire et se ravisa. « En tout cas, pas dans ce genre d'affaires. »
« Il n'y a aucun membre de la famille pour contester le testament. Nous le saurons au moment de l'homologation, mais il affirmait ne plus avoir de famille.
« Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans la maison ?» demandai-je. « J'ai laissé pas mal d'affaires là-bas, surtout des fringues, mais aussi... »
Impossible de me remémorer tout ce que j'avais laissé. Je ne pensais qu'à une seule chose, à ce que M. Bodditch avait fait ce mois-ci pendant que j'étais au lycée. Peut-être avait-il transformé ma vie pendant que je planchais sur une interro d'histoire ou que je tirais des paniers au gymnase. Ce n'était pas alors que je pensais à cet instant précis. Ni au cabanon, ni au revolver, ni à la cassette audio. J'essayais de me faire à l'idée que je possédais désormais, ou posséderais bientôt, la propriété au sommet de Sycamore Street Hill. Et pour quelle raison ? Parce que j'avais entendu Radar hurler à la mort dans le jardin de ce que les gamins surnommaient la maison de psychose par un après-midi glacial du mois d'avril. L'avocat continuait de parler pendant ce temps. Je dus lui demander de rembobiner.
Je disais que, naturellement, vous pouvez retourner dans la maison. Après tout, elle vous appartient. De la cave au grenier. Une fois que le testament aura été homologué.
Il rangea les documents dans la chemise dans la mallette, fit claquer les fermoirs et se leva. De sa poche de poitrine, il sortit une carte de visite qu'il tendit à mon père. Et puis, se souvenant peut-être que ce n'était pas lui l'héritier d'une propriété dont la valeur atteignait les 6 chiffres, plutôt 7, il m'en remit une autre.
« Appelez-moi si vous avez des questions. Bien entendu, je vous contacterai de mon côté. Je vais demander qu'on accélère le processus d'homologation, mais ça peut prendre 6 mois. » « Félicitations, jeune homme !»
On lui serra la main, papa et moi, et on le regarda regagner sa Lincoln. Mon père n'était pas du genre grossier, contrairement à M. Bodditch, capable de jurer simplement pour réclamer le sel. Mais alors qu'on restait assis là, sur ce banc, trop sonné pour se lever, il fit une exception. « Bordel de merde !»«
Oui, fis-je. »
9. À la maison, papa alla chercher 2 canettes de coca dans le frigo. On trinqua.
Comment tu te sens, Charlie ?
Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'y faire.
Tu crois qu'il a de l'argent à la banque ou bien son séjour à l'hôpital l'a mis sur la paille ?
Je ne sais pas.
C'était faux. Il n'y avait pas grand-chose à la Citizens, $2000 peut-être, mais il y avait le seau rempli d'or au premier étage, et peut-être davantage dans le cabanon, en plus du reste.
Peu importe, ajouta mon père, cette propriété vaut de l'or.
Comme tu dis, si c'est confirmé, tu n'as plus de soucis à te faire pour payer tes études.
Il poussa un long soupir tout en faisant une bouche en cul de poule et du coup, il émit une sorte de
« Ouh, j'ai l'impression qu'on vient de me débarrasser d'un poids de 45 kilos. »
« Si on vend la maison ?»
Il me jeta un drôle de regard.
« Tu es en train de me dire que tu veux la garder ? Et vivre dans la maison de psychose comme Norman Bates ?»«
Elle ne ressemble plus à une maison hantée, papa. »«
Oui, je sais. Tu lui as donné un coup de jeune. »
Il y a encore du boulot, j'espérais tout faire repeindre avant l'hiver.
Il continuait à me regarder bizarrement, la tête penchée sur le côté, le front légèrement plissé.
C'est le terrain qui a de la valeur, Chip, pas la maison.
J'avais envie de protester. L'idée de démolir le 1 Sycamore Street m'horrifiait, non pas à cause des secrets que la maison renfermait, mais parce que M. Bowditch y était encore tellement présent, et pourtant je m'abstins. C'était inutile. On n'avait pas les moyens de tout faire repeindre tant que le testament n'était pas homologué et impossible de convertir l'or en argent liquide. Je finis mon coca.
J'aimerais aller récupérer mes affaires.
Radar peut rester ici avec toi ?
Pas de problème. D'ailleurs, j'imagine qu'elle va loger ici à partir de maintenant, non ? Du moins jusqu'à...
Il acheva sa phrase par un haussement d'épaule.
Oui, dis-je. Jusqu'à...
10. La première chose que je remarquais, c'est le portillon ouvert. Je pensais l'avoir fermé en partant, mais je ne pouvais pas l'affirmer. Je contournais la maison, commençais à gravir l'escalier de derrière et m'arrêtais sur la deuxième marche. La porte de la cuisine était ouverte, elle aussi. Et celle-là, j'étais sûr de l'avoir fermée, à clé. Je continuais à monter et pus constater que j'avais bien fermé la porte à clé. Des échardes se dressaient autour de la platine de la serrure, qui avait été à moitié arrachée de l'encadrement de la porte. Je ne songeais même pas que l'intrus pouvait se trouver encore sur place. Pour la seconde fois de la journée, j'étais trop abasourdi pour réfléchir. Je me souviens tout de même de m'être réjoui d'avoir laissé Radar à la maison. Elle était trop vieille et trop fragile pour supporter de nouvelles émotions fortes.